L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de L'Esprit public, en direct et en public, du studio 105 de la maison de Radio France, devant un nombreux public, devant lequel nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons dans une formation un peu réduite, car la grippe, la Saint-Valentin, ou je ne sais quelles autres circonstances ont fait qu'aujourd'hui nous ne serons que quatre autour de cette table. François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et moi-même. Nous allons commencer par nous intéresser au remaniement ministériel. Jeudi dernier, le président de la République, François Hollande, a procédé au remaniement du gouvernement à 15 mois de la prochaine élection présidentielle. Ce nouveau gouvernement est composé de 38 membres, dont 18 ministres et 20 secrétaires d'État, soit 6 membres de plus que dans le précédent. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, devient ministre des Affaires étrangères en remplacement de Laurent Fabius, qui prend la présidence du Conseil constitutionnel. Fleur Pellerin perd le ministère de la Culture, qu'elle cède à Audrey Azoulay, la conseillère pour la culture et la communication du président de la République depuis 2014. Deux radicaux de gauche font leur entrée au gouvernement, Jean-Michel Baylet comme ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ruralité, et Annick Girardin en qualité de ministre de la Fonction publique. L'ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuelle Cosse, a accepté le poste de ministre du Logement et de l'Habitat Durable en échange d'un référendum local sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, référendum dont la faisabilité a été immédiatement discutée. Deux autres anciens membres d'Europe Écologie Les Verts rejoignent l'équipe de Manuel Valls comme secrétaire d'État, Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé, respectivement chargés des relations internationales sur le climat et la biodiversité et de la réforme de l'État et de la simplification. Par ailleurs, de nouveaux portefeuilles de secrétaire d'État ont été créés, notamment celui de l'égalité réelle et celui de l'aide aux victimes. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, je laisse. Tout a été dit sur la composition du gouvernement, mais je trouve que quelques jours après, c'est un bon moment pour essayer de percevoir, une fois de plus, les secrets de fabrication des opérations menées par le président de la République. Spontanément, me viennent à l'esprit deux références, l'une que je sais sûre parce que je l'ai lue. C'est celle du cardinal de Bernis disant « Je pense être le ministre des Limbes ». Et je pense que c'est un peu le ministère des Limbes qu'on a vu, et l'autre qui m'a été rapportée, mais dont je ne sais si elle est exacte, mais qui est bien trouvée, c'est celle d'Arnaud Montebourg. On a beau ne rien attendre de lui, il déçoit toujours. Je pense que c'est intéressant de voir les secrets de cette déception, si je puis dire, qui sont d'ailleurs très publics comme secrets. Il me semble que François Hollande n'a pas son pareil pour essayer de créer un effet de mise en scène sur une impasse. L'impasse est évidente, il n'y peut rien. Il est en bout de quinquennat, il est brouillé avec la gauche de la gauche, avec le parti Europe Écologie. Il ne veut pas ou ne peut pas ouvrir sur la droite parce que ce serait sur le centre. Donc il laisse caracoler Monsieur Macron, mais caracoler verbalement. Il ne peut engager aucune réforme réelle, contrairement à Thierry, je pense qu'il n'a pas fait un virage social-libéral ni même social-démocrate, car il ne s'est pas attaqué et il ne peut pas aujourd'hui s'attaquer au grand problème que pose le pays, c'est-à-dire les dépenses publiques, la politique de logement, l'assurance maladie, le régime de chômage, le régime des retraites, le droit du travail, tout un ensemble de choses qui appelleraient d'immenses réformes et une confrontation directe avec les centrales syndicales. Donc c'est plus le moment, ça l'a jamais été, mais ça l'est moins que d'habitude. Et donc il est coincé. Il n'avait qu'une seule possibilité, c'était d'essayer de détruire la possibilité d'un envol de Madame Duflot, petit envol, Novel, bon, dans le cadre de la présidentielle, en faisant un mauvais coup au parti écologiste. C'était ça l'objectif. Accessoirement, il pouvait récupérer, il pouvait afficher symboliquement. Or, on n'a que faire des symboles aujourd'hui. On est gorgé de symboles. Ce qu'on veut, c'est de l'action. Mais afficher symboliquement sa volonté de réunification du quinquennat en tenant ensemble les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire Hérault et Valls. Alors, tout ça aurait appelé une gestion extrêmement modeste. On aurait dit, bon, ben, voilà, monsieur Fabius s'en va, monsieur Revois a déjà remplacé madame Taubira, il y a deux, trois personnes, etc. Non, on a fait une espèce de grande opération, saluant le retour de Hérault l'Européen. Pourquoi, comment, enfin, ça n'a pas grand sens, parce qu'il parle allemand, en tout cas, il l'enseigne, ou il l'enseignait. Tout ça n'a pas grande signification. Alors, on a eu tous les éléments. L'effet de mystère. Le matin même, on disait remaniement, la dernière équipe avant le sursaut. On avait l'impression qu'il allait avoir un grand rebond, qui n'était simplement pas imaginable. Il ne faut pas en attribuer, le reprocher à Hollande. C'était simplement inimaginable qu'il fasse un grand rebond à quelques mois de sa réélection. Il ne trouvait pas de candidat. Madame Aubry avait dit non. Monsieur, comment s'appelle-t-il?
Hulot. Oui. Alors, Madame Aubry avait dit non, personne ne sait si on lui a demandé. Madame Aubry a dit qu'on lui avait demandé, après quoi elle a dit non. Moi aussi, j'ai dit non.
Oui, mais d'ailleurs, il a sans doute été informé, comme on dit dans les films américains, par oui dire, parce qu'il a répondu à la troisième personne. Donc il a entendu qu'Hulot ne serait pas ministre. C'est le point commun entre Hulot, le général de Gaulle et Jules César. Bon, enfin, en tout cas, il n'y avait pas de candidat notable, donc il n'avait pas grand chose à faire. À ce moment-là, mystère. Ensuite, on a le gouvernement avec une seule réalité qui est la destruction de l'image pourtant de cette femme très sympathique et très qui a fait pas mal de choses positives et qui, j'espère, se remettra de cette épreuve gouvernementale, qui est la destruction d'Emmanuel Cos, qui est une personne qui est quand même tranchée avantageusement par rapport à Madame Duflot, mais qui avait été finalement très très imprudente dans la période précédente, puisqu'elle avait été un peu comme Benjamin Constant, dont chacun sait que trois jours avant d'écrire sous la dictée de Napoléon l'acte additionnel à la Constitution, aux Constitutions de l'Empire, il avait écrit un célèbre éditorial: je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, etc. Et là, ça l'a quand même un peu abîmé, le Benjamin. Eh bien, Cos, c'est un peu la même chose. Elle a été topazifiée, si je puis dire. C'est une honnête femme qu'on a attirée dans un mauvais pas. Et puis, on a pris, comme dit l'autre, Vincent enfin placé, donc qui est très sympathique. D'ailleurs, il paye pas ses contraventions en rigolant, ce qui est le cas de nous. Nous payons nos contraventions sans rigoler, c'est la différence entre lui et nous. Mais enfin, c'est un radical de gauche qui était l'assistant parlementaire de Michel Crépeau et qui a vraiment de la politique une approche extraordinairement
pragmatique.
Pragmatique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, Philippe. Bon, donc tout ça ne signifie pas. Et puis, les deux autres qui attendaient, Barbara Pompili qui attendait patiemment son tour. Et donc fureur bien attendue des écologistes. Donc il n'y avait que ça. Et alors en plus, alors, simplement, il y a quand même les petites Hollande touch. La première Hollande touch, c'est la comptabilité. Là, on voit bien. Alors, je ne calcule pas. Calcule pas, il dit trois fois dans son propos, deux fois dans son propos télévisé, ce qui est quand même énorme. Parce que c'est la seule chose qu'il fasse. Il calcule en permanence. D'ailleurs, moi, loin de moi l'idée de reprocher à un homme politique de calculer. Je préfère un homme politique qui calcule. J'aimerais bien qu'il sache compter, même. Ça serait une très bonne chose. Donc, il calcule. Alors là, on voit bien les arithmétiques, etc., la transformation. Mais il y a cette touche inimitable de sadisme. Il y a trois touches de sadisme. La première, c'est d'avoir mis Madame Cos, alors après avoir, en anti-alchimiste, pris cette transformé l'or en vil-plomb, il l'a effectivement mise dans une situation géniale qui est de reprendre le logement. C'est-à-dire là où Madame Duflot a fait de la vie générale. Il n'y a pas une personne, à part Madame Duflot, qui ne dise que la gestion de la politique du logement a été désastreuse. Notre ami Lionel Zinzou, qui depuis a gravi des étapes immenses dans l'échelle
Pour nos auditeurs, je précise qu'il est devenu Premier ministre du Bénin, mais l'Esprit public est une sorte de tremplin.
Mais enfin, ici, en tout cas, il était un fervent défenseur du gouvernement, ce qui est tout à fait légitime, et il m'avait simplement dit un jour, il n'y a que la politique du logement, ça ne passe pas. Mais, là, on lui demande soit de la prolonger, soit de la défaire, plutôt de la défaire que de la prolonger, ce qui ajoute au sadisme. La deuxième marque de sadisme, c'est de mettre Duflot et Hérault, c'est-à-dire les deux protagonistes essentiels sur le problème de l'aéroport, et en plus, alors comble du hollandisme, d'inventer ce Leonarda juridique qu'est le référendum, c'est-à-dire je me lave les mains, je ne sais pas comment ça tiendra, mais de toute manière, il y en a un qui se fera avoir. Et alors là, il se promet, parce que comme manifestement cette chose n'a pas été calculée, il se promet, à mon avis, de douloureux problèmes. La déchéance de nationalité aurait pourtant dû le protéger de cela. Et enfin, la note ultime de sadisme, on ne peut rien faire contre Macron, on peut juste le rétrograder, une petite fente d'oreille, ça ne fait jamais de mal à personne, et donc elle est faite. Donc voilà la situation. Je trouve que c'est quand même, évidemment, ça a été accueilli de façon tout à fait négative par l'opinion, les sondages sont accablants, c'est normal. Moi, je comprends très bien que Hollande n'ait pas fait une grande chose avec ce remaniement, je ne comprends pas qu'il ait voulu en faire un grand événement de communication.
Thierry Pêche.
Ce que j'aime chez vous, Jean-Louis, c'est que vous avez le déchaînement joyeux et plaisant. J'ai souvenir, puisque ça fait des années que nous discutons ensemble, de l'époque où l'anti-sarkozisme était systématique et passionnel et pathologique. Le anti-hollandisme se porte aujourd'hui très bien, mais vous en avez une version tout à fait plaisante et
sereine.
C'est sereine, et c'est l'occasion pour moi de vous en remercier. Ça pourrait être plus désagréable. Donc, c'était le préambule. Si on essaye d'avoir une lecture un peu politique de ce remaniement, qu'est-ce qui en ressort ? La première chose qui en ressort, c'est quand même une reprise en main du président de la République sur ses affaires. Il y a un chef de gouvernement, mais on ne l'a pas beaucoup entendu. Et on peut dire que la plupart des, que ce soit les Holland Touch ou les nouveaux arrivants, sont peu dans la ligne de Manuel Valls. De ce point de vue-là, ça mérite tout de même d'être relevé. Deuxième élément, on recolle la vaisselle cassée. On a cassé beaucoup de vaisselle quand même ces dernières années à gauche. Hein. Le virage social-démocrate qui n'est pas suffisant pour conduire Jean-Louis à le constater a tout de même été suffisant pour fâcher la moitié de la gauche. Donc il a quand même dû se passer quelque chose, hein, n'est-ce pas ?
Oui, je suis d'accord avec cette double formule. D'accord. Je crois que c'est pas un chef-d'œuvre de bonne conduite politique, mais c'est vrai.
Bon, donc il y a bien eu un virage social-démocrate, Jean-Louis le reconnaît, ça fera date.
Il y a un virage vers, on a donné de l'argent aux entreprises au lieu de réformer le pays.
Ah, d'accord. Alors, on va pouvoir y revenir.
Vous n'ennuierez pas avant d'y revenir que oui, nous oui. poursuivions.
Très bien, Donc, on a cassé beaucoup de vaisselle au moment du virage social-démocrate et on cherche à la recoller. Vous avez signalé, bien sûr, le retour de Jean-Marc Ayrault, qui fait partie de cette stratégie, qui était tout de même l'homme de la grande réforme fiscale qui n'aura pas eu lieu et cela n'est pas suffisant pour le retenir d'accepter le ministère des Affaires étrangères. On voit le retour des Verts, je vais y revenir à l'instant, mais enfin, ils étaient attendus dans une position aussi conciliante à l'égard d'un gouvernement dont ils ont dénoncé la plupart des grandes orientations économiques. Et puis, bien sûr, il y a les cadeaux de fin de mandat aux courtisans qui feraient beaucoup pour avoir une voiture avec chauffeur. Tout ça fait partie de la vie politique. Troisième observation, ce qui est le plus significatif, à mon avis, c'est la mise à l'écart d'Europe Écologie Les Verts pour un long moment. Avant la veille de ce remaniement, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Il avait donc tué la primaire, en tout cas la primaire de toute la gauche. Et le lendemain, le remaniement, on peut dire, a tué Europe Écologie Les Verts. Je ne sais pas. D'ailleurs, il y avait Julien Bayou, je crois, sur un plateau de télévision, membre de LV le lendemain, qui a eu une phrase qu'il n'a pas réussi à finir lui-même tellement elle l'a stupéfié, il a dit « peut-être allons-nous changer de nom ». Oui, en effet, je pense qu'ils vont devoir pas seulement changer de nom, mais de beaucoup d'autres choses. Europe Écologie Les Verts est aujourd'hui dans le fossé. Le premier acte de cette pièce avait été la sortie en fanfare de François de Rugy et Jean-Vincent Placé pour aller rejoindre un petit groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et l'acte 2, c'est l'entrée au gouvernement d'Emmanuel Cosse, de Madame Pompili, dont j'ai oublié le prénom, pardon,
Barbara
Pompili.
Rappelle-toi, Barbara.
Il est en forme, notre chef.
Il pleuvait sur Paris ce jour-là.
C'est bien ce que je disais.
Voilà. Et de Jean-Vincent Placé, sur lesquels vous avez fait des plaisanteries, sur lesquelles je ne reviens pas. Non, plaisante pas sur les noms de famille, parce que vous savez, moi-même, j'ai subi ça à l'école, vous l'imaginez bien, avec le nom que je porte. Et c'est désagréable. Donc. Voilà les trois commentaires. Franchement, dans votre cas, c'est bon. Je vois pas pourquoi on s'est acharné sur vous.
Bien sûr, c'était pire pour moi. Il y a un pourcentage maximal de digression qui est autorisé dans cette émission. On va pas tarder à atteindre le.
Très bien. Alors, non. Pour finir, dans une fin de mandat, vous savez, si on a l'intention de se présenter à sa propre succession, ce qui est peut-être le cas de François Hollande, ce qui n'est pas sûr. Mais si on a cette intention, il y a deux grands choix possibles dans la situation présente. Il y a le choix classique qui consiste à réunifier sa famille. Dire oui, d'accord, ça n'a pas été simple ces quatre dernières années, on s'est fâché sur pas mal de choses, mais on va recoller tout ça. C'est la stratégie de réunification. Et puis, il y a une deuxième stratégie qui serait l'ouverture au centre. Ce qu'il a fait un petit peu aussi avec le virage social-démocrate ou social-libéral dans le vocabulaire de Jean-Louis. Mais je crois que ce qui caractérise François Hollande, c'est qu'il n'a pas choisi entre ces deux options. Et donc, il vient de faire un gouvernement assez cohérent avec la première stratégie, mais dont la ligne va probablement se poursuivre pour ce qu'elle est depuis deux ans, c'est-à-dire une ligne social-démocrate, n'en déplaise à Jean-Louis Bourlange.
François Bujon de l'Étang.
Eh mon Dieu, moi je suis dans l'embarras pour parler de ce sujet, parce que dans une émission aussi distinguée que l'Esprit public, il faut essayer de dire des choses originales et intelligentes. C'est les deux caractéristiques sont difficiles. Si original, c'est particulièrement difficile en l'occurrence, parce que je suis frappé par la complète unanimité des commentaires sur ce remaniement ministériel. Il est assez rare qu'une initiative politique soit saluée par un tel concert de critiques ou de déceptions qui ont été exprimées à droite, à gauche, au centre, partout, dans la presse, dans le corps politique ou chez les gens ordinaires. Donc il y a une grande unanimité des réactions. On a caractérisé ce gouvernement, ce remaniement gouvernemental comme un non-événement. En réalité, j'aime pas beaucoup cette expression, parce que un non-événement, c'est nul, si j'ose dire. Alors que ça peut être négatif. Et en réalité, le fait que un remaniement ministériel intervenant maintenant, c'est-à-dire après une succession d'élections locales et à 14 mois de la ligne d'arrivée, qui est évidemment l'élection présidentielle, est une occasion de créer quelque chose, de trouver un second souffle, de rebondir, d'amener des visages nouveaux et d'essayer d'avoir un nouveau départ ou de remettre un peu d'essence dans son moteur. Or là, il n'y a vraiment rien de tout cela. Il n'y a ni rebond, ni nouveau souffle, ni nouvelle idée. On continue et on n'a pas non plus ce qu'on pouvait espérer, avoir un gouvernement resserré. Au contraire, on l'élargit, on passe de 32 à 39, ou un gouvernement de combat. On a un gouvernement qui est entièrement axé sur une préoccupation unique, qui est d'élargir la base électorale du président de la République pour qu'il puisse se représenter en 2017. Alors, on retrouve bien entendu toutes sortes de vieilles ficelles politiques qu'on a connues en d'autres temps, des nouveaux secrétariats d'État qu'on crée, un secrétariat d'État à l'égalité réelle. Je suis toujours admiratif de l'invention sémantique de notre classe politique. On avait eu un ministère du temps libre, mais là, nous avons un secrétariat d'État à l'égalité réelle.
Ça laisse la place à la création prochaine d'un secrétariat d'État à l'égalité virtuelle ou à l'égalité.
Oui, bien sûr.
Ce qui peut encore permettre de faire
en sorte que quelques personnes. Ce qui peut permettre d'élargir de nouveau.
Pardon. L'égalité formelle.
L'égalité formelle pourrait être bien aussi.
Pour la parité, c'est un exercice aussi indispensable. Maintenant, c'est une figure imposée. La parité a été maintenue, dit-on fièrement, mais on oublie de dire que depuis le départ de Madame Taubira, il n'y a plus aucune femme dans les ministères dits régaliens, qui sont tous tenus par des hommes. Donc, on pourrait beaucoup critiquer tout cela, mais en réalité, il y a des choses qui sont plus graves. Ce que je trouve plus grave, c'est que depuis quelques mois, la France, qui a des problèmes économiques et sociaux bien connus, et d'ailleurs bien répertoriés, bien analysés, s'en détourne pour s'occuper, enfin je dis la France, la classe politique s'en détourne pour s'occuper de choses qui sont tout sauf centrales. On a un vrai problème de lutte contre le terrorisme et de sécurité, mais on se focalise, 3 mois de débat, s'il vous plaît, sur la déchéance de nationalité, qui est peut-être porteuse de symboles, mais qui est quand même très très peu efficace dans la lutte contre le terrorisme. 3 mois de débat. Et maintenant, Notre-Dame-des-Landes, qui va nous occuper pendant longtemps, parce que le gouvernement actuel s'est fait largement autour d'un marchandage sur Notre-Dame-des-Landes. Madame Coste ne voulait pas entrer au gouvernement s'il n'y avait pas quelque chose, une concession sur Notre-Dame-des-Landes. Monsieur Hérault, sur qui apparemment le président de la République comptait pour succéder à Monsieur Fabius, ne pouvait pas accepter d'entrer dans un gouvernement qui allait se prononcer contre ce qu'on appelle à Nantes l'aéroport. Donc voilà un sujet qui devient central et qui, du coup, nous vaut plusieurs caractéristiques très singulières dans ce gouvernement. La première, c'est vraiment la prépondérance du président de la République dans ce remaniement et l'effacement relatif du Premier ministre. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Je sais bien que la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre et que le Premier ministre nomme les ministres. Je sais bien que la pratique est différente, puisque c'est sur le perron de l'Élysée que le secrétaire général de la présidence annonce généralement la liste des nouveaux membres, la liste d'un nouveau gouvernement. Mais cette fois-ci, le président de la République le prend totalement à son compte en allant à la télévision le soir même pour commenter le remaniement ministériel et parler d'ailleurs de Notre-Dame-des-Landes aussi. Donc on a véritablement un effacement du Premier ministre, qui est presque souligné par le fait que le Premier ministre précédent, avec qui il entretient de notoriété publique des relations difficiles, rentre dans ce gouvernement, et ça c'est la première fois à ma connaissance, qu'un ancien Premier ministre rentre dans le gouvernement de son successeur. Il y a d'habitude quand même...
Sous la Ve République.
Oh là là, je ne prononce pas sur le reste. Et puis il y a d'autres innovations qui sont quand même assez singulières. Notre-Dame-des-Landes va nous amener un référendum local. Je ne sais pas comment les constitutionnalistes vont juger...
Michel Debré quand même.
Le référendum local ?
Non, mais Michel Debré est rentré dans le gouvernement de Georges Pompidou.
Oui, mais il y avait eu un hiatus. Il y avait eu un hiatus. Oui. Il était resté quelques années en réserve de la République avant de revenir comme ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, justement, dans le gouvernement...
L'économie.
Et ministre des Affaires étrangères après, dans le gouvernement de M. Couve de Murville.
Non, mais il a succédé à M. Giscard d'Estaing comme ministre de l'économie en 65.
Oui, c'est vrai. Enfin, il y avait eu quelques... Là, nous allons avoir, par conséquent, quelque chose qui sera très, très différent de cette cohésion dont parle M. Valls dans ses commentaires à Munich sur la constitution du nouveau gouvernement. Il y a des sensibilités hétérogènes, disons, pour utiliser une charmante litote. Et le référendum local, je ne sais pas comment les constitutionnalistes vont le qualifier. C'est une innovation. À ma connaissance, ça ne s'est jamais produit, sauf alors dans des très très petits, dans des cas tout à fait anecdotiques et communaux. Mais faire un référendum local sur un sujet qui a déjà été tranché par le gouvernement, car le gouvernement s'était prononcé en faveur de Notre-Dame-des-Landes, ainsi d'ailleurs que les assemblées élues du département, de la ville et de la région. Il fut un temps où un précédent président de la République disait « le pouvoir ne recule pas ». Je crains que ce temps ne soit révolu. Donc voilà une curieuse innovation, puisqu'un référendum local va avoir à se prononcer sur quelque chose qui avait déjà été tranché par le gouvernement, par la région, par le département et par la ville. Et puis alors, vous y avez fait allusion en parlant de fendre l'oreille de Monsieur Macron, mais dans la liste de préséance du gouvernement, voilà une bien grande novation. Le ministre de l'économie, Bercy, s'il vous plaît, et de l'industrie, passe après le ministre du logement et est rétrogradé jusque pratiquement le troisième tiers de la liste de préséance du gouvernement. Alors bien sûr, il y a des questions de personnes derrière cela, mais on voit très bien qu'il y a une manipulation politique. Et ceci expose d'ailleurs de façon très crue le fait que M. Macron est en réalité une marionnette, j'oserais dire, à qui on laisse chanter une chanson dissidente, mais dont on ne tient pas compte. Combien de temps ceci va-t-il durer ?
Thierry Pêche, aussi longtemps que les contributions. Thierry Pêche.
Bon, ben, non, je voudrais revenir sur quelques points. On peut railler l'égalité réelle, en tout cas, on peut s'étonner que ça devienne un Marocain, un ministère. Enfin, l'expression égalité réelle a une vieille histoire dans les sciences sociales. C'est la notion vis-à-vis et opposée de l'égalité en droit, tout simplement. C'est le vieux débat que pouvaient avoir les marxistes, en particulier entre eux. Cette idée d'égalité réelle désignait simplement une égalité plus complète que la seule égalité en droit. Donc ne rigolons pas trop sur le fait que l'antonyme serait l'égalité virtuelle. Référendum local. Alors moi, j'ai pas du tout la compétence pour savoir si c'est constitutionnel, pas constitutionnel, ce qu'en diront les juristes. Ils auront leur mot à dire très certainement et ils s'en priveront pas. Mais je trouve que l'idée n'est pas si sotte. Le dossier est presque complètement bloqué depuis maintenant longtemps. Il a des conséquences négatives, nombreuses. Il occupe la chronique des médias et pendant ce temps-là, on ne parle pas des choses qui comptent réellement. Cet aéroport est-il vraiment nécessaire ? Quand on regarde le fond du dossier, on peut légitimement en douter sans... même si on ne rejoint pas les convictions écologistes des militants qui s'y opposent. Donc moi, je ne trouve pas si sot de faire un référendum pour trancher cette question, c'est-à-dire de revenir à une source de légitimité incontestable. Et d'ailleurs, le pouvoir ne recule pas, il faut le dire vite. Et le CPE, et 95, il n'a pas reculé, le pouvoir, bien sûr qu'il a reculé. Il a reculé bien des fois. On pourrait même se demander s'il n'a pas trop souvent reculé sur les choses qui comptent, et pas assez sur les dossiers secondaires. Jean-Louis amorçait un débat tout à l'heure qu'on pourrait reprendre et qui, lui, est important et intéressant, c'est-à-dire est-ce que le pacte de responsabilité a consisté simplement à donner de l'argent aux entreprises ? D'abord, oui, c'est une digression, je vois dans le geste de Philippe, j'ai excédé mon quota de digression, c'est ça que vous voulez dire, Philippe ?
Je crains que ce ne soit le cas, oui.
Bon, Non, mais alors, c'est très bien, mais je m'arrête là, alors, je m'arrête là.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, juste deux mots. D'abord sur le côté de l'égalité réelle. Moi, ce qui me choque, je comprends très bien cette notion d'égalité réelle. En fait, ça déboucherait logiquement sur des mesures un peu de discrimination positive qui, je n'aime pas le terme de discrimination positive, mais la chose ne m'a jamais fait peur à partir du moment où elle ne met pas en cause directement l'égalité devant les diplômes. Mais il y a des tas de mesures de correction des inégalités qui est fait. Ce qui me paraît très intéressant, c'est cette nomenclature à la Borges. C'est-à-dire qu'on a vraiment, les animaux se divisent en appartenant à l'empereur de Chine, peint avec un pinceau très fin, etc. C'est-à-dire, ça n'a absolument aucune cohérence. Si l'égalité réelle est un problème, si on dit, ce qui peut être un axe pour un gouvernement, d'ailleurs c'est un point commun à la critique de Bourdieu et à celle de Boudon, que de dire que tous ces trucs sur l'égalité des chances, ça n'a jamais marché. Bon. Eh bien, de dire, il faut vraiment s'en prendre, comme le dit par exemple M. Askenazy, qui fait un livre là-dessus actuellement, faut vraiment s'en prendre, prendre le problème de l'égalité par un autre bout. C'est une position de gauche que je considère comme légitime et intéressante. Mais là, on fait pas un petit ministère. Ça concerne l'éducation nationale, ça concerne la santé, ça concerne tout le monde. Ça n'a aucun sens. Là, on met simplement dans une espèce d'alchimie une petite note. Petite touche d'égalité réelle sur dans un paysage, et ça ajoute à la confusion générale. Donc c'est ça qui me paraît toujours troublant dans le hollandisme, c'est cette utilisation des pincées idéologiques à la place de qui sont supposées tenir lieu d'axes idéologiques. La deuxième chose sur le référendum. Alors, je crois effectivement que ce sera un léonardage juridique. On verra comment ça évolue. Je comprends bien ce que dit Thierry. C'est un léonardage parce qu'on voit bien que le président dit j'ai Emmanuel Kos, j'ai Hérault, tout le monde est d'accord. J'ai trouvé un moyen pour ne pas choisir. Je file le bébé au peuple de Loire-Atlantique, au peuple breton, au peuple on ne sait lequel, enfin au peuple. J'attends de voir comment ça évolue. Alors ça pose des tas de problèmes juridiques qui vont effectivement compliquer la vie, mais surtout, je crois que c'est le type même, ça a deux inconvénients, c'est le type même du problème qui ne doit pas relever de la démocratie directe. C'est le type même, si on a inventé la démocratie représentative, c'est-à-dire des élus, un gouvernement pour prendre des décisions, c'est un choix stratégique qui engage l'avenir d'une région sur 20 ou 30 ans. C'est absolument pas quelque chose qu'on peut juger comme ça, je le dis. Parce que moi, je suis a priori, mais je suis plutôt hostile à ce projet, que je crois économiquement pas très fondé en réalité. Et la seule chose qui me fasse le soutenir, c'est les opposants.
Parce que c'est pas un argument.
Mais si, c'est un argument. Non. Je crois que le mépris du droit, tel qu'il est affiché par par les opposants et l'utilisation systématique d'un seul problème, c'est l'interdiction qui serait faite d'exproprier un exploitant agricole. Il faut évidemment que l'exploitant soit très, très généreusement compensé, mais on peut pas juger un projet là-dessus. Mais pour le plan économique, je suis très sceptique. Mais en tout cas, je crois que ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on peut vraiment avoir un jugement autre qu'un jugement totalement aléatoire, avec en plus les 40% de gens qui voteront contre Hollande parce qu'ils n'aiment pas Hollande. Enfin, tout ça est faux. Et la deuxième chose, je terminerai par là, c'est que c'est quand même une machine à faire un mécontent. Il y aura au bout du compte quelqu'un qui se fera avoir. Est-ce que ce sera Emmanuel Cosse? Est-ce que ce sera Hérault? Est-ce que ça ne prélude pas à quelque chose d'assez difficile pour le gouvernement lui-même? Donc je pense que c'est une fois de plus une façon de repousser une échéance plutôt que d'assumer une responsabilité.
François Bujon de l'État.
Non, juste un tout petit mot pour dire que, en défendant l'idée ou en trouvant le bien fondé de l'idée d'un référendum local, Thierry a dit que ça avait l'avantage parce que les journaux allaient se focaliser dessus et que pendant ce temps-là, on ne parle pas des choses qui comptent réellement. Je trouve que c'est vraiment une phrase clé pour notre débat. Parce que, finalement, depuis que l'on parle de la déchéance de la nationalité, de la réforme de la Constitution, maintenant de Notre-Dame-des-Landes, et puis ensuite de nouveau de la réforme constitutionnelle dont on ne sait pas si elle aboutira, on ne parle pas des choses qui comptent réellement. Et en plus, on souligne le découplage qui existe entre la classe politique et les préoccupations des Français. Les Français se préoccupent de l'emploi, ils se préoccupent du chômage, ils se préoccupent des CDD, de la réforme du Code du travail. Et de tout ceci, on ne parle pas, puisqu'on parle d'autre chose.
Je vous remercie, particulièrement Thierry Pêche, grâce à qui nous avons échappé au massacre de la Saint-Valentin à propos de ce remaniement. Et je vous propose que nous passions au sujet suivant, qui est celui de la situation économique et financière dans le monde. Depuis le début de l'année, la volatilité des marchés et la déroute du secteur financier inquiètent, et l'éventualité d'un nouveau krach maintient un sentiment de défiance généralisée à l'égard des banques. L'indice CAC 40 a ainsi connu une baisse de 13,8% depuis janvier. Cette semaine, les valeurs des actions des banques françaises, italiennes et allemandes ont plongé, emportant avec elles les principaux indices boursiers européens. Jeudi, la Bourse de Paris a perdu 4%, soit légèrement plus que celle de Hong Kong, et celle d'Athènes plus de 6%. Après une baisse de 13%, le titre de la Deutsche Bank a été ramené à son niveau de début 2009, c'est-à-dire en pleine crise financière. Entre le ralentissement de la croissance chinoise, la chute des prix du pétrole qui plombe les pays producteurs et les signes de faiblesse du secteur bancaire, la nervosité reste à son comble sur les marchés financiers. La peur d'une récession aux États-Unis amplifie ces inquiétudes, d'autant que mercredi dernier, Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed, a déclaré, je cite, « les conditions financières aux États-Unis sont devenues récemment moins favorables pour la croissance ». Les doutes s'accumulent quant au bien fondé de la politique des banques centrales, dont les fortes émissions de liquidités n'ont réussi ni à faire redémarrer la croissance, ni à faire redémarrer l'inflation. La fragilité de certains États européens, comme la Grèce ou l'Italie, la peur de la déflation, la crainte de l'explosion de bulles immobilières et les taux records de surendettement publics et privés sont autant de facteurs qui rendent les marchés de plus en plus frileux. Si certains acteurs de ces marchés financiers jugent que le spectre de 2008 est là, d'autres parlent de surréaction et contestent que nous soyons face à une nouvelle crise bancaire. Cela impute les turbulences qui affectent les marchés à l'état de la croissance, de l'inflation et de l'emploi dans les pays occidentaux. Telle est l'analyse de la société Lazard Frères Gestion, selon laquelle, je cite, « nous sommes aujourd'hui davantage confrontés à un accès de panique des marchés qu'à une vraie dégradation des fondamentaux ». Le G20 Finance,
qui se tiendra à Shanghai les 26 et 27 février prochains sera l'occasion de connaître le positionnement des banques centrales et de voir si et dans quelle mesure elles seraient prêtes à mener une action concertée et coordonnée pour empêcher que la situation ne dégénère en crise financière profonde. Sur cette question, Thierry Pech.
Alors, le débat entre économistes porte beaucoup sur la question de savoir si c'est une panique conjoncturelle, un accès de fièvre, si vous voulez, ou le symptôme d'une pathologie beaucoup plus lourde. Et tout le monde pense à ce qui s'est passé, bien sûr, en 2008. Alors moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Il y a des esprits très autorisés qui pensent que c'est plutôt une forte fièvre. Mais ce qui me semble tout à fait évident, en revanche, c'est que ces mouvements un peu erratiques qu'on a observés récemment sur les marchés financiers sont l'expression de mutations assez structurelles, hein, sont liées à des transformations assez structurelles de ce qu'on a appelé la mondialisation ces dernières années et qui était une mondialisation très particulière. Premier facteur de mutation structurelle, le ralentissement chinois. C'est pas un ralentissement pour cette année, c'est une transformation profonde du modèle de développement de la Chine. La Chine a eu un modèle de développement extraverti, fondé sur ce qu'on a appelé la mondialisation du producteur, c'est-à-dire sur sa main-d'œuvre à bas coût, abondante, jeune, et qu'elle a pu mettre au service d'une nouvelle division internationale du travail. Eh bien, la Chine aujourd'hui change de modèle, et ça, le Parti communiste chinois l'avait annoncé il y a maintenant presque 10 ans, on allait augmenter les salaires ont augmenté, la Chine est en train de changer de modèle, et donc ces taux de croissance absolument stupéfiants qu'avait connu la Chine, qui étaient des taux de croissance à deux chiffres, qui ont duré presque plus de 10 ans, ces taux de croissance vont bientôt faire partie de nos souvenirs. La Chine a annoncé un taux de croissance de 6,9% pour 2015, il est très probablement moitié moindre en réalité, et il va falloir s'habituer à une Chine, c'est-à-dire un ensemble de 1,3 milliard d'individus qui croient beaucoup moins vite. Ça, c'est le premier point. Mais ça a des effets structurels gigantesques, si vous voulez, parce que la Chine, c'était la moitié de la consommation de la plupart des matières premières stratégiques du monde. C'était le grand importateur de matières premières et le grand exportateur. Donc, première conséquence de ce ralentissement chinois, la sortie de ce que les économistes ont appelé le supercycle des matières premières. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant 10 à 15 ans dans un monde où les matières premières étaient des valeurs montantes. La plus triste illustration de tout ça a été donnée en 2008 avec ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. On a vu en 2008 que des marchés comme le blé pouvaient s'enflammer de façon tout à fait considérable. On a pensé dans les années 2000 aussi qu'on allait atteindre le peak oil concernant le pétrole. Donc on est en train de sortir de ce monde-là qui était un monde qui était directement lié au décollage chinois. La Chine consommait énormément. L'usine chinoise, si vous voulez, absorbait des quantités impressionnantes de métaux, de produits énergétiques, etc. Ça, c'est fini. Alors, ça a une conséquence majeure, c'est que la plupart des pays qui ont vécu dans l'économie de rente liée au fait qu'elles avaient des ressources naturelles importantes, c'est une grande partie des émergents, et bien ces économies-là aujourd'hui sont exposées à un très fort ralentissement, un très fort refroidissement économique. On a beaucoup applaudi les émergents ces dernières années. En fait, on a oublié que beaucoup d'entre eux n'ont pas tiré profit de la situation qui était la leur pour monter en gamme, pour essayer de se situer dans des secteurs de production plus prometteurs. Beaucoup d'entre eux, en fait, sont restés simplement des marchands de matières premières. La Russie fait partie de ce cas-là. Le Brésil, dont nous parlions tout à l'heure avec François avant l'émission, fait partie de ce cas-là. Ce que les économistes appellent la malédiction des matières premières. D'autres pays qui n'avaient pas de ressources naturelles mais qui avaient une main-d'œuvre à bas coût abondante, y compris en Europe, comme la Pologne par exemple, ont été touchés un peu par le même phénomène. Ils ne sont pas montés en gamme, ils ont simplement profité de leurs avantages structurels. Enfin, je veux attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que dans ces années de croissance très forte des émergents et de la Chine, on a vu exploser la dette privée des entrepreneurs. Il faut bien voir que nous, en Europe, on a connu une crise de la dette publique. Mais les crises de dette privée sont souvent beaucoup plus graves. C'est ce qu'a signalé d'ailleurs le Fonds monétaire international dans une étude récente. Aujourd'hui, en Chine, la dette des entreprises chinoises, qui se sont endettées pour investir parce qu'elles pensaient que l'avenir serait à l'image de ce qu'elles avaient connu dans les années précédentes, eh bien cette dette, c'est 160% du PIB chinois. Bon, c'est beaucoup d'argent, si vous voulez. Si demain, ces entrepreneurs font défaut, parce que la croissance n'est pas au rendez-vous, ça va poser un sérieux problème financier. Dernier facteur, et j'en termine parce que je vois que Philippe va me gronder, il y a ce sur quoi beaucoup de commentateurs aujourd'hui en Europe et en France, donc Philippe me gronde, ce sur quoi beaucoup de commentateurs aujourd'hui en France et en Europe mettent l'accent, c'est-à-dire l'excès de liquidité. Effectivement, les banques centrales ont lâché énormément de liquidités sur les marchés. Hein. Bon, et ces liquidités, elles cherchent à se placer sur des rendements forts. Et ces rendements forts, ils sont où? Ils sont dans les pays émergents, 9 fois sur 10. Et quand on approche du resserrement monétaire, on en avait parlé avec les décisions de la Fed, ces capitaux peuvent, sur une information, une indication, avoir des déplacements absolument massifs et perturber les économies concernées.
François Bujon de l'État.
Alors je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Thierry, à la fois sur la Chine et ensuite sur la liquidité, sur laquelle je reviendrai dans un instant. De quoi s'agit-il au fond dans l'inquiétude actuelle? Il s'agit d'une dégringolade des bourses qui a commencé en fait à l'été dernier, qui s'est accentuée depuis le 1er janvier. Une dégringolade des valeurs bancaires, qui sont les plus touchées de façon peut-être même excessive et irrationnelle, et par conséquent des inquiétudes que tout ceci crée autour du spectre d'un nouveau Lehman Brothers, si vous voulez, c'est Deutsche Bank qui est aujourd'hui peinte comme le prochain Lehman Brothers, mais il y a aussi des inquiétudes sur les banques italiennes. Enfin, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Si on essaye d'y voir clair dans tout ça et de se demander si tout ceci est exagéré ou bien réel, il faut d'abord évidemment tenir compte de l'aspect toujours irrationnel des marchés et des opérateurs de marché. Il n'y a pas plus panurgique, plus moutonnier que les opérateurs de marché et qui ont toujours tendance à surréagir et qui depuis 2008 sont portés toujours au super pessimisme pensant que 2008 va se reproduire. C'est une illustration de plus du fait que l'économie est décidément une science molle puisque personne n'est capable de prédire en réalité ce qui va se passer, et on ne peut pas s'empêcher de repenser à la vieille blague américaine qu'on disait beaucoup avant 2008, qui est « ne vous moquez pas des économistes, ils ont quand même prédit 12 des 3 dernières récessions ». Mais nous sommes peut-être quand même moins vulnérables qu'en 2008, si on cherche des éléments positifs. D'abord parce que la régulation bancaire a fait beaucoup de progrès. La loi Dodd-Frank aux États-Unis a beaucoup de faiblesses et beaucoup d'incohérences, mais enfin, elle a un peu discipliné le secteur bancaire. L'union bancaire établie au sein de l'Union européenne, en complément à la zone euro, et les nouvelles défenses qui ont été établies pour la zone euro sont en soi des éléments plus stabilisateurs. Et puis les banques elles-mêmes ont été très largement recapitalisées depuis 2008, notamment aux États-Unis, parce que les banques européennes sont moins bien et moins vite recapitalisées que les banques américaines, mais enfin, elles apparaissent tout de même moins fragiles. Alors ça, ce sont les éléments pour se rassurer. Les autres, les éléments d'inquiétude, sont évidemment légion. Il y a tout ce que Thierry a dit sur les émergents, qui est parfaitement exact. Les émergents sont en capilotade, en réalité. Les fameux BRICS, si vous les reprenez, depuis le B jusqu'au S, ont tous des difficultés, et on ne les voit pas sortir de très vite de leurs problèmes. Le Brésil, en fait, dont nous parlions, 4% de récession aujourd'hui, un retour de l'inflation, une devise qui décroche face au dollar, une montée du chômage, un gigantesque scandale qui éclabousse la totalité de la classe politique, une procédure d'impeachment contre une présidente qui a encore 3 ans à faire. Enfin, vraiment, tout ceci est très inquiétant. Et l'économie russe, je n'en parle pas parce que c'est également un sujet en soi très important. Je souscris à tout ce qui a été dit sur la Chine et sur le fait que l'économie chinoise évidemment ralentit pour de bon, puisque c'est pas un vrai ralentissement, mais on peut pas attendre d'un pays qui devient un pays émergé et non plus émergent de continuer à avoir une croissance à 2 chiffres. Mais il y a des nouveaux dangers aussi. Il y a le danger de déflation qui commence à se profiler. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est que la politique des taux suivie par les banques centrales et singulièrement par la Fed, dont nous avions eu l'occasion de parler il y a quelques semaines, entraîne maintenant vraiment un risque de déflation. On va jusqu'à des taux d'intérêt négatifs que l'on voit. Les taux d'intérêt négatifs, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous prêtez 100 à quelqu'un avec un taux d'intérêt négatif, disons, de 0,5, ça veut dire que vous ne récupérez que 95. C'est quand même extravagant et c'est totalement déflationniste. À quoi tout ceci tient-il? Que faut-il retenir de tout ça? Moi, je trouve qu'il y a 3 choses à retenir. La première, c'est que malgré les leçons de 2008-2009, le système financier a continué à vivre en créant les conditions d'un nouveau krach. peut-être pas un crack, mais en tout cas une nouvelle crise systémique. Alors malgré le renforcement du secteur des banques dont j'ai parlé, il est vrai, et je reviens sur ce qu'a dit Thierry, qui est tout à fait exact, que les banques centrales ont créé artificiellement, depuis quelques années, une liquidité gigantesque. Gigantesque, avec le quantitative easing et avec la politique maçon de M. Draghi à la BCE. On a créé toute cette liquidité qui, en effet, ne s'investit pas dans le long terme, mais s'investit dans des activités spéculatives qui ont trait au marché émergent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et puis ajoutons que si tout ceci se double d'une politique de rigueur budgétaire, vous avez vraiment les conditions d'une déflation. La deuxième chose, c'est que la période de croissance lente ne va pas disparaître de si vite. Le tassement des économies, des États-Unis émergentes, mais même les autres, peut être tout à fait durable. Ça peut être durable pour les raisons objectives que l'on a dit à propos de la Chine. Ça peut être durable parce que la baisse des investissements à long terme traduit en réalité une absence de confiance générale dans l'avenir, et parce que la poursuite de la chute des prix du baril de pétrole va vraisemblablement se poursuivre en entraînant des conséquences considérables sur le secteur pétrolier et parapétrolier et sur l'exposition des banques. Enfin, dernier mot, Philippe, si vous m'y autorisez, je pense que le mot de crise devrait être banni de notre vocabulaire. La crise, c'est quelque chose, c'est un accès de fièvre, c'est quelque chose qui passe et qui ensuite se corrige. Nous sommes en réalité non pas dans une crise, mais dans un réajustement majeur de l'économie mondiale. C'est une mutation formidable que nous voyons, mutation dans tous les domaines, l'économie, la démographie, le domaine climatique, et ça, nous entrons dans une terra incognita.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que tout ça est parfaitement vrai. Il me semble que d'abord, il y a une première interrogation qui apparaît, c'est le problème des banques centrales, de l'attitude des banques centrales. Moi, j'ai toujours défendu les banques centrales et je crois qu'elles ont été dirigées par des gens très sages, que ce soit M. Trichet ou M. Draghi en Europe. Mais le problème se pose. Alors, ça me fait toujours penser à... Quand j'ai lu l'interview de M. Villeroy de Galhau, dans le Figaro lundi dernier.
Gouverneur de la Banque de France.
Gouverneur de la Banque de France et membre donc du système, de la BCE. Et ça m'a rappelé un dessin de Plantu que j'avais trouvé très très bon il y a très longtemps, où on voyait, dans une atmosphère de panique financière, on voyait, comme fait Plantu, tout un ensemble de petits hommes gris qui couraient absolument éperdus, paniqués, et au milieu un homme tout rose, tout hilar, tranquille, etc., souriant. Et la légende était: un banquier central s'est glissé dans ce dessin, pouvez-vous le reconnaître? Et c'est vraiment l'impression que m'a donné tout ça, car effectivement, on voit bien, mais je n'en tire pas critique, on voit bien les limites de l'action des banques centrales. Premièrement, elle est, notamment la banque centrale, la Fed, est devenue quand même pro-cyclique, c'est-à-dire qu'elle intervient, elle intervient à un moment au bout du cycle de croissance, au moment où ça se renverse, et à un moment où elle ne peut plus rien faire, parce qu'elle est au bout du bout. On a d'abord baissé les taux d'intérêt pour effectivement faciliter l'accès au crédit. Quand on a fini de baisser les taux d'intérêt, on a dit il y a une solution qui a été évoquée à l'instant par François Bujon de l'Étang, qui est de faire des taux d'intérêt négatifs, ce qui est aberrant. Aberrant moralement, aberrant économiquement, ça ne peut pas tenir, on peut plus investir correctement, on peut plus apprécier le risque, on ne peut plus rien faire. C'est totalement immoral, donc c'est quelque chose qui peut être un expédient, mais qui ne peut surtout pas durer, or on ne sait pas comment en sortir. Donc là, au moment où le cycle semble se retourner, la Banque centrale est totalement privée de moyens. D'autre part, elle s'est heurtée à une situation que, d'ailleurs, Thierry avait décrite rapidement dans une précédente émission, où l'action monétaire, ça ne marche pas. C'est-à-dire l'idée qu'en déversant des liquidités dans le marché sous forme de prêts, on allait relancer l'inflation et relancer la croissance, ça ne fonctionne pas. En fait, on relance l'endettement, et l'endettement est complètement coupé de la croissance, pour des raisons qui tiennent à la structure même de la mondialisation, c'est-à-dire notamment des marchés de matières, des perspectives de croissance potentielle inférieures enfin, qui sont pas de nature à remonter le cours des matières premières, et d'autre part, un partage capital-travail qui est très favorable au capital, aux actionnaires, et pas favorable au travail, donc aux revenus, donc à la consommation, et qui ne tire donc pas l'équilibre, l'ensemble vers le haut. Bien au contraire, en développant l'endettement, il paralyse la capacité d'initiative des acteurs. Et donc on est dans une situation qui est quand même très très préoccupante. Et ajoutons à cela que certaines banques, comme la banque japonaise, ont mené des stratégies rigoureusement non coopératives, qui sont des stratégies qui, en réalité, montrent leurs limites, parce que ce qui est pris aux uns est un jeu à somme nulle, ce qui est ou même négatif, ce qui est pris aux uns est enlevé aux autres. Et quand nous nous sommes tant réjouis en Europe de l'alignement des planètes, on a oublié de voir que c'était aussi un jeu à somme nulle ou négative. Quand nous nous réjouissions de la baisse du pétrole, qui a des effets très positifs, et qui devrait en avoir d'ailleurs sur la Chine, mais qui n'en a pas vraiment, on a oublié de dire que, enfin on l'a dit, mais ça n'a pas été beaucoup pris en compte, que ça pénalisait la Russie, l'Algérie, le Venezuela, le Brésil, tout un ensemble de puissances qui sont, et les États-Unis également, qui sont devenus une grande puissance pétrolière. Quand on a dit que l'euro baissait, on a dit très content, l'euro baisse, etc., bah, ça voulait dire que ça faisait remonter par contre-coup le dollar et que ça fragilisait la situation économique aux États-Unis. Donc on a développé, et tout ce qu'a fait M. Abe au Japon allait dans ce sens. Donc on a développé des stratégies non coopératives qui ne pouvaient pas donner de bons résultats. Alors je ne critique pas les banques centrales, car je crois que face à une situation extrêmement difficile, elles ont fait face elles ont paré au plus pressé. Mais le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas. Qu'on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à en sortir parce que derrière tout ça, il y a des causes profondes. Alors, elles ont été évoquées. D'abord, les limites du colbertisme chinois, limites à la stratégie d'exportation et à la mauvaise allocation des ressources en Chine liées à une immense corruption. Et là, personne ne sait exactement ce qu'il y a là-dessous. Personne, les statistiques sont fausses.
Actuellement, c'est la lutte contre la corruption.
Oui, justement, c'est l'inverse. La Chine, les Chinois sont, je me méfie beaucoup du dirigeant chinois sur le plan des droits de l'homme, mais sur le plan économique, ils font à peu près ce qu'ils peuvent. Ils essaient d'éviter un effondrement complet de leur monnaie par une fuite des capitaux et ils essaient de lutter contre la corruption avec sans doute un ciblage un peu plus direct sur les ennemis du régime, sur les ennemis du président que sur ses amis. Bon, mais enfin, il y a un petit effort. Deuxièmement, on a la stagnation séculaire, c'est-à-dire la baisse de productivité, et donc un cycle profond de ralentissement de la croissance. Troisièmement, on a, et c'est un thème que Thierry, avec lequel je suis très souvent d'accord en réalité, a souvent développé, le partage capital-travail qui est défavorable au travail, etc. Donc on a tout cela. Alors maintenant, quand on a dit tout cela, personne ne sait comment en sortir. Moi, et je ne vais pas me permettre de prendre des leçons, je dirais simplement une chose. C'est que, en réalité, la solution ne peut venir que de stratégies fondamentalement coopératives. Au plan européen, pour éviter une dislocation nouvelle de la zone euro qui menace, et au plan mondial, une stratégie coopérative qui n'est pas seulement monétaire, mais qui est également financière. Et je m'émerveille et m'indigne, comme dirait le regretté Stéphane Hessel, je m'émerveille et je m'indigne de voir qu'il peut y avoir encore tant de gens dans ce beau pays de France et dans cette Europe qui considèrent que la solution peut revenir sur un repli sur des stratégies purement nationales de protection de l'emploi, alors qu'il est absolument évident que le problème que nous avons, c'est un écart entre une mondialisation économique qui s'est faite spontanément et une mondialisation politique qui ne s'organise pas du tout. Et cette mondialisation politique, elle suppose une étape qui est la réalisation de l'Union européenne. Plus d'Europe, c'est une condition, ce n'est pas une solution, mais c'est la condition d'une solution.
Je vous remercie de votre brièveté. Merci. Signale que nous en sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voulais que je vous dise les heures, donc 60 minutes. Et comme Jean-Louis Bourlange en a mangé 59, il nous en reste une. Je voudrais introduire moi-même cette séquence des brèves. La semaine dernière, Sylvie Kaufmann parlait du droit de défiance en matière
politique qui est née de ce décalage entre les propos et les actes, décalage abyssal entre les propos et les actes. On en a eu quelques exemples cette semaine de gens qui, après avoir juré qu'ils n'iraient pas au gouvernement, ils sont allés vendre parallèle au sol, si je puis dire. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que, au fond, souvent, plus les propos sont radicaux et fermes, plus la pratique est éloignée de ces propos. Et j'en ai trouvé, en ce qui concerne la mairie de Paris, que le Canard Enchaîné surveille avec une particulière et citoyenne, comme on dit aujourd'hui, vigilance, j'en ai trouvé quelques exemples très intéressants, puisque la maire de Paris n'a pas de propos assez fermes sur les valeurs de la gauche. On a appris, grâce au Canard Enchaîné, que les sentiments d'exquise urbanité qui lient Madame Hidalgo à Monsieur Bolloré, à Monsieur Pinault et à Monsieur Arnault, sont des sentiments qui s'étendent désormais à Monsieur Niel, à qui viennent d'être attribués les 44 000 mètres carrés de l'ancien centre Morland, et à un autre homme d'affaires, Monsieur Hazan, qui lui a emporté l'ancien hôtel de Madame de Montespan, bien que, je cite le Canard, son offre soit la moins avantageuse pour la ville et la plus destructrice pour le bâtiment. Mais le Canard nous explique aussi que l'adjoint à l'urbanisme avait menacé les membres du jury du concours d'attribution de l'hôtel de Montespan de casser leur vote si le poulain de la mairie n'était pas choisi. Dans le même numéro, on pouvait admirer les manœuvres de Monsieur Arnault pour s'approprier les manèges et attractions du jardin d'acclimatation d'une valeur de 6 millions d'euros. Quand on aime, on ne compte pas. Et toujours dans le même numéro, on apprenait que le directeur général de l'ancien office de HLM de Paris, qui s'appelle aujourd'hui Paris Habitat, émarge pour un salaire mensuel de 14 000 euros, que son contrat prévoit une prime de 24 mois de salaire en cas de licenciement. Et au fond, je me suis dit que tout était une question de vocabulaire, parce que une pareille prime en cas de licenciement, à droite, on appelle ça un parachute doré. Mais à gauche, on appelle ça un traitement social du départ. Thierry Pêche.
Un parachute social, peut-être. Alors, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu répondre à Jean-Louis. Mais
allez, glissez un mot vite fait.
Je demande le droit de digresser la prochaine fois sur les questions de déflation et de régulation bancaire. En attendant, je voudrais vous recommander très chaleureusement le livre de Charles King, « Minuit au Pera Palace, la naissance d'Istanbul ». Charles King est un professeur de relations internationales de Georgetown aux États-Unis qui a consacré un ouvrage qui est très plaisant à lire, qui est très émouvant aussi, sur la Constantinople qui était en train de devenir Istanbul dans les années, à la fin des années 10, début des années 20, l'Istanbul de l'entre-deux-guerres, qui était un lieu absolument invraisemblable où la misère et la fortune se croisent tous les jours. On y voit débarquer des populations de migrants absolument colossales, des musulmans des Balkans, des Russes. On y voit l'activité culturelle stupéfiante de cette ville. Enfin voilà, c'est un livre qui est très agréable à lire et très beau. « Minuit au Pera Palace, la naissance d'Istanbul »
François Bujon de l'État.
Bien sûr, je pourrais demander à Philippe de préfacer un dictionnaire amoureux de la digression que nous pourrions écrire tous les trois conjointement. Mais je préfère
Sera dans mes mémoires.
Je préfère vous recommander de vous reporter à la magnifique histoire de la littérature française d'Alberti Baudet, qu'on ne trouvait plus depuis longtemps et qui vient d'être fort opportunément réimprimé aux éditions du CNRS en poche dans la collection Biblis. C'est une merveilleuse histoire de la littérature française, magnifiquement écrite et qui a le mérite d'établir des liens non seulement entre les écrivains mais entre les différentes écoles et entre ces écoles et leur époque.
Merci Jean-Louis Bourlange.
Était aussi un
historien. Je voudrais dire mon étonnement, mon regret de voir, avec un peu de retard d'ailleurs, de voir que la mort d'un sans doute du plus grand écrivain français des 40 dernières années, Michel Tournier, a donné lieu à si peu d'écho de la part des pouvoirs publics et de la part des médias. Alors sans doute, ça s'explique par le fait que Tournier était devenu un vieil homme reclus chez lui et coupé de tout le monde.
Nous partageons entièrement votre indignation et votre regret. Nous ferons en sorte, d'ailleurs France Culture a déjà fait en sorte que cette situation ne soit pas,
Contribuons en m'interrompant.
De notre mieux. C'était donc l'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparé avec Adrien Nazelli et Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui à la technique Cédric Chaplut, Nadège Antonini et Ariane Herbet. Vous avez rendez-vous maintenant avec Alain Kruger pour Semeur d'huîtres, on ne parle pas la bouche pleine. Il reçoit deux ostréiculteurs du Morbihan. Il me reste à remercier le public du studio qui a été nombreux, abondants, silencieux, qui nous a soutenus et nous soutient encore. Même les applaudissements m'interrompent, Jean-Louis. Quelle situation terrible.